Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. C'est l'équipe de la Fondation Copernic qui est aux manettes de l'émission Mode d'emploi ce soir, comme tous les quatrièmes vendredis du mois. Avec pour présenter l'émission ce soir, Didier Gélot, Emmanuel Rungouet et Claude en régie, on le remercie. Ce soir, nous discutons d'un nouveau thème, nous avons posé la question « Quelle politique culturelle en direction des classes populaires ?» Pour y répondre et en discuter, deux invités tout d'abord, Laurent Martin, qui est historien, chargé de recherche au Centre d'Histoire de Sciences Po, et notamment auteur de plusieurs ouvrages, mais on a retenu « Une histoire des relations culturelles dans le monde contemporain » chez Armand Collin en 2011, et « Démocratiser la culture, une histoire comparée des politiques culturelles », paru dans un numéro de revue de Territoire Contemporain. Bonsoir.
Bonsoir.
Et puis Francis Parny, qui est avec nous, vice-président de la région Île-de-France, qui est chargé du sport et des loisirs et qui a été pendant plusieurs années vice-président à la culture. Bonsoir.
Bonsoir.
Et puis en seconde partie d'émission, nous recevrons Jean Rousselot, qui est réalisateur du documentaire Les Vorace chez Van Glabeke Film en 2010. Documentaire sur la question du rapport à la culture des jeunes dans un lycée, qu'on va dire aussi de milieu populaire. Vous pouvez retrouver l'émission comme les précédentes sur le site internet de la Fondation Copernic, fondation-copernic.org, ou sur le site de Mode d'emploi.
Eh bien bonjour, bonjour à tous. Donc Didier, pour démarrer cette émission, quelques petits chiffres, hein, puisque l'idée c'est quand même qu'on a affaire aujourd'hui à une politique culturelle qui est diversement prise en main par les différentes populations, une inégalité d'accès, hein, pourrait-on dire, à la culture. Alors voilà, quelques chiffres que j'ai notés comme ça au hasard d'une lecture. La moitié des ouvriers n'ont lu aucun livre dans l'année, et alors que 10% des cadres, ce chiffre n'est né que de 10% pour les cadres. Même chose, à l'inverse, si j'ose dire, 50% des cadres sont abonnés à une publication culturelle ou autre, alors que seulement 25% des ouvriers, et dernier chiffre peut-être pour pas nous assommer, les deux tiers des cadres ont visité un musée dans l'année, alors que c'est seulement le cas de 20% des ouvriers. Alors peut-être une première question en direction de Laurent Martin. Hein. Ces chiffres sont clairs. Je crois que bon, ils n'étonneront personne. Hein. On sait bien malheureusement que l'accès à la culture est très très différencié selon l'origine socio-économique. Enfin, selon les professions, selon différents indicateurs de ce type. Mais est-ce que ce phénomène est-ce qu'il s'améliore ? Est-ce qu'on a un accès à la culture qui est plutôt plus partagé aujourd'hui que c'était le cas il y a, je dirais, 30 ans, par exemple ? Et plus largement, historiquement, qu'est-ce qu'on peut un petit peu dire de cet accès à la culture ? Qu'est-ce que dit l'historien là-dessus, qui a regardé un petit peu sur longue période et puis sur période peut-être plus courte ?
Il peut dire plusieurs choses. D'abord, effectivement, non pas seulement année après année, mais enquête après enquête, puisque notamment il y a depuis le début des années 70 ce qu'on appelle les enquêtes sur les pratiques culturelles des Français, qui sont faites par les sociologues, statisticiens qui appartiennent au ministère, donc ce sont les chiffres officiels, sur lesquels d'ailleurs s'appuient beaucoup d'interprétations et de polémiques actuelles, hein, mais on utilise globalement les mêmes chiffres, et ces chiffres, effectivement, enquête après enquête, constatent cette distribution inégale, comme vous disiez, à la fois selon les niveaux de diplôme et selon les niveaux de revenus. Hein, c'est ces deux variables-là qui sont les plus discriminantes. Alors, effectivement, on en a déduit, c'est un peu le débat depuis, je dirais, les années 80, même si en fait ça reprend des débats antérieurs, mais on en a déduit ce qu'on appelle l'échec de la démocratisation culturelle, hein, cette grande ambition qui est structurée un peu, qui était un peu la colonne vertébrale des politiques culturelles depuis Malraux, depuis la fondation du ministère des Affaires culturelles en 59. On a déduit donc l'échec de cette démocratisation culturelle. À cela, j'ai quand même envie de dire plusieurs choses, de répondre à plusieurs choses. D'abord, c'est un échec un peu en trompe-l'œil, puisqu'il y a quand même, notamment, enfin, la démocratisation culturelle, c'est pas uniquement l'élargissement social des publics, c'est pas uniquement la conquête de ce qu'on appelait le non-public, de ce que Francis Janson appelait le non-public, c'est aussi la possibilité donnée à chacun, quel que soit l'endroit où il habite, de pouvoir accéder, accéder à la culture sous la forme des institutions culturelles, des équipements culturels. Et de ce point de vue-là, la politique qui a été menée, je dirais, par tous les gouvernements, par toutes les majorités depuis Malraux, c'est quand même soldée par un assez beau succès. Quand on compare la situation actuelle et la situation dans les années 60, effectivement, il y a eu beaucoup d'équipements culturels qui ont été construits, beaucoup de théâtres, de musées, de bibliothèques. Et de ce point de vue-là, c'est vrai, ce qu'on appelait encore le désert culturel français a quand même reculé, voire en partie disparu. Donc, il faut nuancer en tout cas cette impression qu'on a d'un échec de cette démocratisation. Maintenant, c'est vrai que les écarts et la distribution sociale donc des pratiques culturelles continuent,
ne bouge pas beaucoup.
Mais on reviendra peut-être là-dessus, parce que justement, qu'est-ce qu'on appelle la culture, qu'est-ce qu'on appelle les pratiques culturelles, etc. Et donc là aussi, le débat est peut-être faussé dès le départ, en fait. Mais je laisse.
Alors, c'est des questions sur lesquelles on va revenir, à la fois les questions un peu de définition, cadrage, et puis les questions des inégalités. Bon, une autre question historique, quand même, qui me vient et qui peut situer un peu notre sujet. Depuis quand est-ce que la question se pose en ces termes, de savoir s'il y a des discriminations en termes de culture, des inégalités de culture? Vous dites cet objectif de démocratisation, c'est malheureux. C'est 59, dans 49 après la libération.
59. Malraux, d'ailleurs, qui n'a jamais parlé de démocratisation culturelle, il faut le dire. Hein. Ce n'est pas dans son vocabulaire. D'ailleurs, c'est un mot que peu de ministres ont employé, y compris Jack Lang, qui n'employait pas le mot de démocratisation culturelle, sauf exception. Alors, c'est une préoccupation plus ancienne que la fondation du ministère, puisque, alors, sous d'autres noms, notamment pendant l'entre-deux-guerres, à l'occasion du Front populaire, on parle de populariser la culture, mais c'est la même chose. Hein. Il s'agit, entendons-nous bien, sous le Front populaire, de populariser la culture, la haute culture, la grande culture, de faire en sorte que la culture ne soit plus l'apanage des élites sociales. C'est ça le projet, l'un des projets du Front populaire. C'est aussi, et de façon plus moderne, plus neuve, d'une certaine façon, plus relativiste aussi, une prise en compte d'autres types de pratiques culturelles et de prise en charge par les pouvoirs publics d'un certain nombre de formes d'expression, notamment peut-être par exemple le cinéma ou les loisirs, les divertissements, les vacances. Tout cela rentre, peu ou prou, le sport aussi, dans des politiques publiques qui les prennent en compte. Donc ce souci vraiment de faire en sorte que la culture ne soit plus donc réservée aux élites sociales, c'est vraiment une préoccupation qui apparaît fortement et qui apparaît dans le discours politique et public à l'occasion du Front populaire. Mais on pourrait remonter là encore bien antérieurement et se dire que depuis le XIXe siècle, depuis la Révolution française, au fond, la Révolution française, qu'est-ce que c'est? C'est quand même un projet de populariser, démocratiser la culture. La transformation du Louvre en muséum, en musée de la peinture et de la sculpture pour la nation, c'est quand même un projet, là aussi, de démocratisation culturelle. La grande loi sur les archives de 1794, c'est aussi une loi de démocratisation culturelle. Sans parler, évidemment, des lois sur l'instruction publique sous la Troisième République. Bref, cette préoccupation, elle est très ancienne. Et elle accompagne, je dirais, le projet démocratique, le projet républicain, depuis son apparition, depuis la fin du XVIIIe siècle.
Mais dans votre propos, j'aimerais bien quand même relever deux choses. La première, c'est que vous avez dit, bon, on a beaucoup construit des musées, des lieux, en tous les cas, de diffusion de la culture. Vous citez le Louvre. Bon, mais est-ce qu'il suffit de construire des lieux pour que, justement, tout s'y aille? C'est un peu ça la question. Parce qu'en même temps, on voit bien, les chiffres que j'ai cités tout à l'heure montrent que, justement, malgré que ces lieux existent, les gens n'y vont pas. La grande majorité de la population n'y va pas. Et c'est toujours réservé.
C'est la grande, à la fois, utopie et illusion de l'époque Malraux, et qui a au fond, continué, perduré, quels que soient, là encore, les changements de phraséologie, de gouvernement, etc., dans les années 70-80, et surtout 80. C'est l'idée, effectivement, que en construisant des lieux, des équipements, des institutions culturelles, mécaniquement, on va augmenter la fréquentation. Et surtout, mécaniquement, on va réduire le non-public, c'est-à-dire la part de la population qui ne fréquentait pas auparavant ces lieux. En construisant de nouveaux, eh bien, on va attirer la population. Sauf qu'effectivement, et ça, on le sait, je dirais, depuis les enquêtes sociologiques des années 60, je rappelle que l'une des premières enquêtes sociologiques sur les publics de la culture, elle est menée par Bourdieu en 64 sur les publics des musées, qui va donner lieu ensuite à son maître livre, l'un de ses premiers maîtres livres, qui est L'amour de l'art, en 69. Et qu'est-ce qu'il dit, Bourdieu? Il dit, oui, vous avez construit des musées, mais les gens n'y vont pas. Parce qu'il y a pas seulement une barrière matérielle, une barrière économique, ou une barrière tout simplement géographique ou physique quand vous n'avez pas de lieu à proximité, il y a aussi une barrière symbolique. Il y a aussi le fait que les gens n'ont pas l'habitude, n'ont pas justement les dispositions, de par leur parcours social, de par leur trajectoire sociale, de par leur origine, de par leur position sociale, n'ont pas le réflexe d'entrer, de franchir les portes d'un musée ou d'une bibliothèque, etc. Et donc il faut dit Bourdieu, non pas seulement mener une politique culturelle par un ministère de la culture, c'est la grande critique qu'il fait au fond de la politique du ministère, c'est une politique beaucoup plus large qu'il faut mener, et notamment qui passe prioritairement par l'école. C'est à l'école que doit se mener le combat de la démocratie.
On va le temps d'en reparler. Donc, double question du coup qui s'adresse à Francis Parny maintenant. On a parlé avec cette mise en perspective historique de ça, on a donné des indices déjà, un éclaircissement de ce que peut être une politique culturelle, de ce que ça concerne comme domaine. Qu'est-ce que c'est, toi, la définition que tu donnerais de la politique culturelle? Parce que je sais que tu en as une qui est intéressante. Et puis, deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on fait de, justement, qu'est-ce qu'on fait face à cette discrimination, face à cette, ce problème d'accès qui est donc pas simplement matériel. C'est-à-dire qu'on peut mettre en place des institutions, on peut mettre en place des subventions plus importantes au budget de la culture. Ça ne suffit pas forcément à créer de la mixité. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place?
Oui, bon, moi je dirais d'abord qu'il faut effectivement introduire un mot dans notre débat, c'est le mot « art ». Pour moi, la culture, c'est ce qui permet de faire circuler l'art. Et ce phénomène d'appropriation de l'art, il peut être individuel et collectif. C'est-à-dire au niveau individuel, vous pouvez avoir tout simplement, voilà, vous allez dans une exposition, peu importe qui c'est, mais vous avez cette appropriation d'une œuvre d'art qui la transforme et qui est répercutée ensuite parce que vous reportez vous-même dans la sensibilité, dans votre discussion avec les autres. Et puis au niveau public, c'est le même phénomène. La politique publique, elle doit d'abord s'efforcer de faire en sorte que circule le maximum d'art. Notre débat, quand on dit « est-ce qu'il y a une politique culturelle en direction des classes populaires ?», pour moi, c'est horrible. Il ne peut pas y avoir de politique en direction de telle ou telle classe sociale. Il y a un volume de... Mais les questions servent à ça, bien sûr. Mais il y a un volume de création qui existe dans ce pays. Est-ce qu'on donne tout à voir à l'ensemble des personnes de ce pays, les classes populaires comme les autres, ou bien est-ce qu'on part du principe qu'il y a un a priori dans ce qui était dit sur la politique Malraux, etc. Moi, je suis d'accord avec l'idée que ce n'est pas un échec. Mais c'était pas une démocratie culturelle, je suis d'accord aussi avec ça. C'était une décentralisation culturelle. Tous ces équipements qui ont été réalisés, c'est un outil. Il y a à poursuivre cela. Il y a encore des déserts culturels dans notre pays. Mais effectivement, c'est insuffisant. Il faut savoir après quel est le contenu de ce que l'on donne à voir. Vous allez dans des quartiers populaires. Vous avez une école de musique, par exemple. Le professeur qui investit, il n'apprend pas à ses enfants, par exemple, Mozart. Il apprend Stockhausen, ou il apprend des œuvres contemporaines. Il n'y a pas de barrière à un enfant ou à quelqu'un d'autre par rapport à tel ou tel type de culture. Il y a apprentissage, notamment dans une école. Donc, il faut que tout soit approprié. Prenons un autre exemple, puisqu'on a parlé des musées. Nicolas Sarkozy fait la gratuité des musées le dimanche, donc il l'a élargi, etc. C'est positif, on ne peut pas dire le contraire, ça marche, etc. Mais où est la faiblesse de cette politique? C'est que c'est la gratuité seulement pour l'accès aux collections. C'est-à-dire on est dans cette conception de faire accéder tout le monde au patrimoine. Mais l'art, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose de contemporain, c'est quelque chose qui peut être assimilé par n'importe qui comme une œuvre de transformation. Dans un travail professionnel, c'est ce qu'on fait. C'est une appropriation symbolique du monde pour le transformer. Donc c'est ça qu'il faut donner à voir. Madame Filippetti, quand elle fait la gratuité des musées au moment des fêtes du jour de l'an, ben c'est une gratuité qui s'ouvre aux collections, mais qui s'ouvre aussi aux expositions temporaires. Donc on peut voir la création contemporaine. Donc il faut faire ce pari-là.
Ah. On pourrait quand même poser la question, je crois qu'on y reviendra, je pense, hein, sur cette question, mais j'y viens tout de suite puisque tu en parles. Qu'est-ce qu'on peut penser quand même de cette... appropriation de la culture un jour donné dans l'année, parce que c'est un petit peu ça quand même.
Oui, bien sûr.
Il y a quand même cette difficulté que on est aujourd'hui, on est un petit peu pris en ciseaux entre d'un côté l'appropriation de la culture en général, a priori effectivement on ne peut être que pour, mais on réserve des moments, si j'ose dire, qui sont un peu voilà, qui sont forts, qui sont souvent d'ailleurs très fortement médiatisés et qui bien souvent ont plus un objectif de médiatisation que vraiment d'accès à la culture. En tous les cas, c'est un peu la question que je vous pose. Je sais que vous avez un petit peu regardé hein, ces questions du travail qui a pu être mené par Jack Lang hein, lorsqu'il était ministre de la Culture.
Un petit peu beaucoup.
Un petit peu beaucoup. C'est pour. Alors l'un et l'autre, qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu de cette finalement dichotomie entre voilà, l'accès de tous à un moment donné et l'accès peut-être moindre, mais tout au long de l'année. Enfin, si je vais dire les choses un peu simplement, quoi.
Il y a tant de choses à dire.
Laurent Martin.
Il y a tant de choses à dire.
Je peux commencer.
Alors, Francis Parny.
Non, je crois que d'abord, ça pose une autre question. C'est d'où vient la discrimination? Donc, est-ce qu'elle est d'abord de caractère économique? Oui, bien sûr, je veux dire, il faut faire des tarifs sociaux, etc. Mais ce n'est pas ça la principale discrimination. Pour prendre une image, quand une famille populaire passe devant un théâtre et qu'elle voit un escalier rouge qui se déroule, la famille dit « ce n'est pas pour moi ». Immédiatement, le père ou la mère ajoute « oui, mais je veux que ce soit pour mes enfants ». C'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance que le désir d'art, c'est quelque chose qui est profondément humain. Mais en même temps, on dit « ce n'est pas pour nous ». Donc il faut régler cette question-là. Pour cela, il faut donner des moyens aux structures pour aller vers les gens. Je le disais tout à l'heure, la culture, c'est ce qui permet de faire circuler l'art. Donc il faut aujourd'hui penser en même temps le mécanisme de création et celui de son partage. Et il y a plein de créateurs qui sont comme ça. J'ai soutenu, moi, comme vice-président de la région, Nicolas Klotz, réalisateur de cinéma. Quand il fait un film, il établit son scénario et avant de filmer une minute, il va dans les salles où sont diffusés ses films habituellement et il va discuter de son scénario avec les publics qu'il a rencontré. C'est-à-dire qu'il crée en amont déjà un processus de création collective. Je prends Nicolas Fries, un compositeur de musique. Il est à Saint-Denis en résidence, il y a un quartier en réhabilitation, il doit créer une œuvre avec des chants chorales, il parle avec la population, il transforme cette population en acteur de ce chant choral. Et ça change complètement la relation à l'art. Ce n'est plus quelque chose qui nous est extérieur, c'est quelque chose qui peut être un référent pour notre activité. On pourrait prendre d'autres exemples dans le spectacle, par exemple le théâtre de Vitry, qui va en résidence avec une compagnie à EDF et qui crée un spectacle de danse sur le danger que représente la pratique professionnelle de tel ou tel travail. Les ouvriers d'EDF s'y reconnaissent complètement, sont passionnés, contribuent à ce débat. Donc je crois qu'il faut changer le rapport. Mais ça suppose le rapport à l'art, bien sûr, de l'ensemble de nos concitoyens. Ça suppose des moyens. Ça suppose des moyens importants. Parce que faire du théâtre hors les murs, c'est le contraire de ce que faisait Sarkozy en disant qu'il faut satisfaire la demande. Donc c'est la jauge. Vous avez une salle, vous avez 600 places, il faut remplir les 600 places. Donc tant pis si vous faites 2 ou 3 séances seulement, au lieu d'en faire 15, 20, un mois. Parce qu'il faut remplir la salle. Ça n'a pas de sens, ça n'élargit pas le cercle des connaisseurs, comme dirait l'autre. Donc ce n'est pas une œuvre d'appropriation. Donc il faut cela, il faut ces moyens-là. On est aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui, enfin, daté du 26 avril, je l'ai découvert tout à l'heure sur mon téléphone, il y a une tribune du Syndéac, un des plus importants syndicats regroupant les employeurs de spectacles vivants, qui s'adresse au président de la République et qui démarre en lui disant « Monsieur Hollande, vous avez souhaité que tout le monde soit associé à votre politique, vous oubliez les artistes. Or, les artistes, c'est l'art. Et qu'est-ce que vous allez faire pour qu'on ait les moyens de faire en sorte que, au moins symboliquement, il y ait une appropriation collective de ce qu'est cette société, de sa transformation, etc. Et dans leur texte, ils font remarquer que les premiers crédits culture qui ont été supprimés, c'est les crédits consacrés à la transmission des savoirs, par exemple. Et si vous prenez l'école aujourd'hui, regardez cette élection présidentielle. Plus personne n'a repris ce qu'était le programme de Ségolène Royal ou de Sarkozy dans l'élection présidentielle précédente, qui était de dire il faut une demi-journée consacrée à l'école, à l'enseignement artistique. C'est comme ça qu'on va combattre véritablement les discriminations. C'est-à-dire l'école, la République, c'est le lieu où il peut y avoir une homogénéisation sociale. Vous voyez, donc ça, c'est complètement abandonné. Et à la place de ça, on nous propose des rythmes scolaires. C'est-à-dire un ersatz, disons-le, d'enseignement artistique et culturel réalisé par des gens qui n'auront pas les qualifications et en dehors du projet scolaire.
Alors on va faire tout de suite une petite pause musicale avant de poursuivre avec 1984, un nouveau groupe strasbourgeois qui monte, avec Maz. C'était donc Maz de 1984. Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Et nous parlons culture, politique culturelle à l'égard des classes populaires ce soir. Jean Rousselot, réalisateur du documentaire Les Voraces, nous a rejoint. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors on va tout de suite relancer la question sur là où on l'avait laissée, j'ai envie de dire, sur la question de... peut-être revenir sur la question de savoir ce qu'est la culture, même si c'est une large question. Et de quoi on parle quand on parle de politique culturelle? On s'était arrêté sur... sur la question, je vais reprendre plutôt un exemple de Francis Parny, qui disait que la différence entre les politiques culturelles de Nicolas Sarkozy et celle qui est faite en ce moment, c'est notamment qu'on avait un accès au musée qui avait été rendu gratuit pour les collections à l'époque Sarkozy, et qu'aujourd'hui on a aussi, enfin pour les collections classiques, on peut dire ça comme ça, et aujourd'hui on a cet accès qui est aussi rendu gratuit pour les collections, pour les expositions non permanentes, c'est-à-dire celles qui seraient plus proches de l'art actuel, contemporain, actif, tel qu'il est, plus vivant, on pourrait dire. Moi, ça me pose une autre question, et là, je m'adresse à Laurent Martin, qui est de quel type de culture on parle quand on parle de culture, ou est-ce qu'on peut parler de type de culture ? Tout à l'heure, il évoquait Bourdieu. La question qui se pose, c'est de savoir si, quand on parle de discrimination en termes de politique culturelle, on fait aussi des hiérarchisations en termes de culture, c'est-à-dire qu'on aurait une culture dominante à laquelle il faudrait donner accès à tout le monde. Donc en ce sens-là, ça pose la question de savoir, est-ce que la culture, elle produit de la domination ? Est-ce que les politiques culturelles, elles sont faites pour lutter contre cette discrimination ? Donc ça veut dire, si on essaye de démocratiser l'accès à cette culture classique ou à ce patrimoine, est-ce qu'on ne le renforce pas ? Est-ce qu'on ne contribue pas à cette question de légitimer une culture classique plus patrimoniale, etc. Et est-ce que l'alternative n'est pas, et là je reviens un peu sur ce que disait Francis Parny, de faire une distinction entre accès à la culture en termes de patrimoine et pratique culturelle ? Est-ce que la démocratisation, c'est pas démocratiser la manière de faire de la culture, d'entrer dans la pratique culturelle ? Et là, ça pose la question du rôle de l'école.
Oui, vous avez raison. D'ailleurs, les exemples qui ont été donnés dès le départ, je crois par vous-même, sur justement, en montrant les écarts d'accès à la pratique culturelle ou à la culture, c'était la lecture, les musées, etc. Donc finalement, des formes extrêmement légitimées, consacrées de culture. On peut se poser la question, d'ailleurs un certain nombre de sociologues se posent la question, de savoir si on n'est pas rentré dans une ère post-légitime où effectivement, la question de savoir si on va à l'opéra ou si on va au théâtre ou si on va au musée n'est pas forcément la plus intéressante, la plus pertinente. La question, c'est plutôt de savoir si chacun peut pratiquer des formes de culture qu'il choisit, qui ne sont pas forcément celles qu'effectivement qu'on avait l'habitude de reconnaître comme étant les plus élevées dans la hiérarchie des genres, des arts, etc. Et donc effectivement, l'idée de démocratisation de la culture, de démocratiser la culture, ça, c'est une idée qui repose quand même sur l'idée implicite de hiérarchie culturelle, et donc sur l'idée qu'il y a des genres, des formes d'expression qui sont plus désirables que d'autres. Il est plus désirable, ou il est plus valorisant d'aller à l'opéra plutôt que de lire la bande dessinée. Mais la question se pose, est-ce que c'est aussi évident que cela ? S'il y a des gens qui préfèrent lire de la bande dessinée plutôt qu'aller à l'opéra, est-ce qu'on peut les stigmatiser sous prétexte qu'ils ne rentrent pas dans les canons de la culture légitime ? Donc ça c'est une vraie question qui, je pense, n'a pas été véritablement posée par toutes ces enquêtes sur les pratiques culturelles, parce qu'elle repose sur l'implicite, effectivement, qu'il y a des formes de culture plus désirables que d'autres, ou plus reconnues et valorisées que d'autres. De la même façon, qu'est-ce que c'est que la culture populaire ou que le public populaire ? C'est quand même des termes extrêmement piégés. Quand vous regardez la façon dont ces termes apparaissent, notamment au XIXe siècle, vous avez plusieurs façons de caractériser le populaire. Le populaire, ça peut être tout simplement le peuple dans son ensemble, la population dans son ensemble, quelles que soient les classes sociales, les différences, etc. Et d'une certaine façon, cette vision transclassiste, c'est celle de Malraux, hein, quand il dit dans les maisons de la culture, tous les gens, quel que soit leur niveau de formation, d'éducation, de diplôme, de conditions sociales, viendront et auront ce choc esthétique devant l'œuvre. C'est l'idée que finalement, le niveau de diplôme, le niveau de revenu, etc., n'importe pas. Villard, c'est pareil, le théâtre de Villard, le théâtre populaire de Villard, c'est de dire que tous les publics, tous les citoyens peuvent venir et communier dans une sorte d'amour du patrimoine et du répertoire classique. Donc voilà, il y a déjà une première vision du populaire, mais il y a une autre vision qui consiste à dire que le populaire, c'est plutôt des communautés, des groupes sociaux, etc., ou par exemple ce qu'on appelle la culture ouvrière. La culture ouvrière, c'est la culture populaire aussi, ou la culture de certaines communautés immigrées, des cultures régionales, etc. Donc ça peut être aussi ça, la culture populaire. Et puis ça peut être, et ça c'est effectivement un sens qui émerge notamment avec l'essor du mouvement ouvrier à la fin du XIXe siècle, c'est l'idée que la culture populaire, c'est la culture des classes populaires. Et de ce point de vue-là, effectivement, la façon dont on envisage la démocratisation de la culture et l'action en faveur d'un public populaire, elle change évidemment complètement selon la définition que vous utilisez, selon la vision que vous avez même du populaire. Voilà, donc c'est peut-être ce que j'avais envie de dire pour l'instant, mais...
Francis, j'ai l'impression que tu voulais réagir.
Oui, non, je pense que ça pose la question... On a parlé des questions de forme, donc d'aller au-devant des gens pour partager, etc. Mais là, maintenant, il faut aussi poser la question des contenus, effectivement. Voilà. Donc il me semble que du point de vue de l'action publique, si on est dans une conception de service public de la culture, les collectivités, de l'État et toutes les autres, puisqu'on est dans un domaine partagé, je pense que leur boussole, ça doit être... de ne pas sélectionner, d'offrir la diversité de contenus qui existent. C'est comme cela que les classes populaires et d'autres peuvent le mieux se reconnaître. Qui présélectionne ? Le marché. Il faut bien parler, dans la satisfaction des besoins, interviennent aussi les industries culturelles. Mais les industries culturelles, elles sélectionnent des produits. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de l'ouvrier qui lit un livre. Mais quel livre il va lire ? Aujourd'hui, s'il écoute la radio, on lui laisse le choix entre Musso et Lévy. On organise un hit parade. Il est en tête. Demain, c'est plus lui, c'est l'autre, etc. Mais en même temps, c'est impossible de lire cela. Alors que vous avez des écrivains, y compris des prix d'ailleurs. Je pense à Olivier Adam, qui a eu le prix Renaudot. Quand vous le lisez, par exemple, il parle des gens qu'il a côtoyés dans la banlieue sud de la région parisienne, dans l'Essonne. Et donc c'est passionnant à lire pour des gens de culture. Ils se reconnaîtraient s'ils pouvaient lire. Donc la faculté d'offrir l'ensemble des contenus est importante, en contradiction avec le libéralisme qui, lui, va choisir des produits. Vous allez au cinéma, vous écoutez une musique, vous écoutez un tango argentin extraordinaire, vous sortez, vous avez envie de l'écouter, vous allez à la FNAC, vous ne l'avez pas. Parce qu'en tête de gondole, vous avez ce qui se vend le plus et que vous ne trouverez pas ce produit-là. Et on ne vous le commandera même pas. Et c'est ce préconditionnement du goût par l'intervention des industries culturelles qui est profondément délétère. Et il ne faut pas créer de ghetto. Parce qu'on a connu des moments de politique publique qui disaient « faut l'acquisition du patrimoine pour tous, mais dans les quartiers populaires, il faut développer la culture hip-hop ». Mais c'est à crier, ça. C'est enfermer les gens dans un type de culture. Alors qu'au contraire, la fonction de l'art, c'est de faire découvrir quelque chose. Donc il faut vraiment aller dans le sens. Vous prenez le théâtre. Je suis horrifié par la chaîne France, enfin Antenne, c'est plus Antenne 2, moi je suis France 2. Voilà, France 2 dit j'ai redonné des lettres de noblesse au théâtre. Mais qu'est-ce qu'on nous passe au théâtre avec la complicité de gens de talent comme Arditi, mais la complicité, je le dis, qu'est-ce qu'on nous passe au théâtre? On nous passe, excusez-moi le terme, mon cul sur ma commode, c'est-à-dire du théâtre bourgeois. On nous parle des problèmes internes des familles bourgeoises. Mais moi, quand j'étais jeune, j'ai vu à la télévision Jean-Christophe Averty faire Ubu Roy, par exemple, et utiliser la technique audiovisuelle au service d'une création complètement originale, dont on parlait au cafétéria, à l'entreprise, dont on parlait au lycée, partout. Donc c'est cette présélection... Enfin, qui nous est imposé, qui est quelque chose d'insupportable.
À votre époque, comme à la mienne, ce qu'il y avait quand même surtout à la télévision, c'était au théâtre ce soir. Et le théâtre ce soir, c'était effectivement ce théâtre bourgeois de boulevard.
Ben
oui, voilà. Non, mais c'était quand même.
Oui,
c'était ça. Mais il y a aussi aujourd'hui des tentatives justement de remettre des pièces, notamment du répertoire classique, des pièces de la comédie française à la télévision. Et d'ailleurs, France 2, justement, puisque vous la nommez, se félicite justement des succès d'audience qu'elle rencontre grâce à ces pièces qui sont quand même effectivement. Qui relève de la culture la plus légitime, la plus reconnue. Mais moi, je joue juste un mot. Je serais quand même moins sévère que vous et peut-être moins manichéen sur les industries culturelles. Parce que les industries culturelles, c'est tout et rien. C'est quand même aussi les industries culturelles, et notamment le livre, puisque vous en parlez, qui ont réussi à populariser et à diffuser à des tarifs extrêmement avantageux les grands textes de la littérature classique. Je veux dire, Stendhal, Flaubert, etc., sont en livre de poche grâce aux industries culturelles. C'est ce que disait d'ailleurs Auguste Saint-Girard.
Au tarif unique du livre qui a été imposé,
absolument,
qui est une originalité française,
tout à fait.
Et au fait que dans les accords européens, il y a toujours l'exception culturelle qui est maintenue.
Tout à fait. Ça, c'était une grande victoire de la France.
Cette affaire je vous coupe la parole, cette affaire du livre-là, est-ce qu'il n'y a pas quand même, pour le coup, une particularité très française qui fait que la culture doit passer par l'écrit? Si on regarde,
c'est un pays très littéraire,
y compris européens, où on voit bien l'enseignement lui-même, et puis. Simplement l'accès à la culture n'est pas forcément par l'écrit. Est-ce que là justement on n'a pas une sélection de classe, enfin en tous les cas une sélection sociale qui se fait en privilégiant l'écrit par rapport à d'autres formes de, 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 de construction de la connaissance. On en reviendra peut-être tout à fait avec vous sur cette affaire de comment dans l'école on peut faire accéder,
comment dans l'école on peut faire accéder les élèves à la culture. Mais j'aimerais bien qu'on discute un petit peu.
Oui, ce primat de l'écrit et du littéraire est quand même effectivement constitutif. On a parlé de la France comme une nation littéraire. Je pense effectivement que la littérature est en France ce que la musique est à l'Allemagne, par exemple. Enfin, c'est l'art central, effectivement, lié à la politique de la langue, lié effectivement à une histoire très ancienne.
Ça a une barrière sociale quand même très forte.
Oui, enfin, on pourrait dire aussi que ça en abaisse certaines, parce qu'effectivement, pour peu que vous accédiez justement à cette culture littéraire, c'est quand même une culture qui est aussi émancipatrice. Mais effectivement, dans les années 70, il y a un constat qui est fait par le ministère lui-même, le service d'études et recherches, selon lequel, pour venir à ces industries culturelles, et c'est une parole sacrilège d'ailleurs, qui est immédiatement dénoncée par le ministère lui-même et dénoncée par un certain nombre de membres de députés, notamment communistes. Il y a une enquête qui dit, au fond... les industries culturelles ont fait davantage pour la démocratisation que toutes les politiques publiques de la culture. Donc le marché...
C'est iconoclaste. Hein.
C'est tout à fait iconoclaste. D'ailleurs, son auteur, Augustin Girard, s'est fait un peu taper sur les doigts. Mais c'était pour dire que, tout simplement, le marché peut avoir aussi une vertu de diffusion, une vertu d'expansion, de diffusion de la culture classique. Et d'ailleurs, c'était un peu l'illusion aussi, le grand rêve, en disant que, notamment la télévision, allait pouvoir... justement permettre à la culture classique, à la culture légitime, à la culture la plus reconnue, d'être plus largement diffusée. Il y avait quand même le constat d'un décalage entre beaucoup d'argent mis dans les institutions de la culture classique et puis les pratiques réelles, effectives des Français telles que constatées par les enquêtes sur les pratiques qui montraient qu'en fait, les pratiques, elles étaient plutôt du côté des médias audiovisuels, des industries culturelles, etc. Donc c'est le constat de ce décalage entre finalement une vision généreuse mais relativement décalé par rapport à la réalité, et puis la réalité des pratiques.
Alors, je me retourne vers Francis, je vais te laisser réagir. Donc, première chose, tu peux peut-être réagir à ça. Et une deuxième question que j'ajoute, et je te la pose, et puis je m'adresse aussi à Jean Rousselot, c'est qu'on parle de la production, de la culture, et on peut peut-être revenir aussi ensuite sur la question de la consommation et de la pratique, c'est-à-dire est-ce que cette discrimination ou ce partage de la culture qu'on cherche à produire, il n'est pas seulement du côté de la consommation, il est aussi du côté de... que seulement du côté de la production, mais aussi de la consommation et de la pratique, c'est-à-dire de l'accès, de la manière dont on se l'approprie, dont on en fait ou pas, dont on fait de la culture. Et je voudrais que tu reviennes aussi là-dessus ensuite, c'est-à-dire comment est-ce que, parce qu'on n'a pas vraiment résolu ou répondu à cette question-là, comment est-ce que, une fois qu'on a décentralisé les institutions culturelles, une fois qu'on peut produire peut-être à large échelle et à faible prix des productions classiques, ça ne veut pas dire qu'on a l'ensemble de la population qui va se l'approprier. Donc qu'est-ce qui peut être mis en place? Et tu parlais tout à l'heure de modes de production plus collectifs ou plus ancrés dans les sociétés ou localement. Est-ce que ça, par exemple, ça peut permettre de lutter contre la discrimination? Donc d'abord ta réaction, puis après peut-être la réponse à cette question.
Non, sur la réaction, peut-être c'était manichéen, évidemment, ma façon de poser les choses. Mais en tous les cas, oui, on ne peut pas nier que les industries culturelles satisfassent un certain nombre de besoins. Mais encore une fois, on est dans une tradition française qui a su utiliser, y compris, le marché pour une redistribution. C'est-à-dire que ce soit dans le domaine de la musique ou que ce soit dans le domaine du cinéma, les réussites commerciales, on va dire entre guillemets, ont souvent contribué à des fonds qui aidaient la création. C'est typique dans le cinéma. Plus il y a de spectateurs dans les films américains, par exemple, qui sont diffusés en France,
c'est
de bonne qualité, de mauvaise qualité, là non plus je ne veux pas être manichéiste, plus le fonds de soutien à la création française est alimenté. Donc on a su faire cela. C'est d'ailleurs intéressant de voir que dans des endroits où la commercialisation est moins forte, comme dans le spectacle vivant, il y a une tendance de ceux qui nous gouvernent et des gouvernements quels qu'ils soient en se succédant qui a visé d'abord cette profession. L'attaque contre les annexes 8 et 10 pour les intermittents du spectacle, c'est parce que là, il n'y a aucune rentabilité financière possible. On n'est pas encore à éditer des cassettes de pièces de théâtre qu'on va vendre et qui vont permettre une rentabilité financière. Donc c'est aussi la tradition française et le génie un peu français sur cette question-là qui a fait en sorte qu'on ne peut pas s'opposer complètement au marché, bien sûr, qu'il développe. Mais en même temps, il y a une guerre continuelle. Vous prenez la bataille sur Internet, par exemple. La volonté d'empêcher, en quelque sorte, ce qu'on a appelé le piratage. Mais le piratage, c'est quoi? C'est d'abord du partage. Et qu'on vienne pas... Je suis pour rémunérer les auteurs, mais qu'on vienne pas me dire que ça met en cause la rémunération des auteurs. Il y a des formes qu'on peut trouver en taxant, justement, les diffuseurs.
Le droit d'auteur, c'est d'abord un droit d'éditeur. en l'occurrence.
Oui.
C'est d'abord la défense du droit des éditeurs et des, oui. et des maisons de production, etc., pour garder leur business.
Voilà. Bon. Mais après, il y a des choses très contradictoires. C'est-à-dire que la pratique sur Internet, c'est une pratique d'échange culturel, donc de partage, mais qui est marquée par la domination des industries culturelles. Mmh. On échange d'abord des produits qui sont hyper promotionnés. Et parfois, dans des échanges entre deux internautes, se passe quelque chose. Mmh. Voilà. Alors ensuite, sur la façon de produire, oui, je pense... Mais ça passe aussi par des moyens. C'est-à-dire qu'indéniablement, on a besoin, notamment dans le domaine du spectacle vivant, on a besoin d'avoir des structures, ce qu'on appelle les lieux intermédiaires, par exemple. C'est-à-dire des structures qui s'installent un peu dans les quartiers populaires et qui créent une relation différente entre les populations et ceux qui portent un projet artistique pour qu'ils soient partagés dès le début. Ça, évidemment, c'est à mon avis, la grande donnée du devenir d'une culture véritablement populaire.
Alors, on va refaire une petite pause musicale. Et cette fois-ci, c'est avec Java. Je me marre.
Le tien, c'est le tien. Et le mien, c'est le mien. L'accent, mien, c'est parisien. Roi de l'argot, tête de chien. Ni Dieu ni maître, mais une rente. Je me marre. Je me marre, mourir pour des idées, oui, mais de leur lente. Point barre.
Vous êtes donc sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. On revient sur la question des politiques culturelles avec Jean Rousselot, qui est donc réalisateur du documentaire Les Voraces en 2010 chez Van Glabeke Film. On passe sur l'accent. Et donc, qui a réalisé un documentaire sur qui s'attaque à cette question-là. On est dans un lycée à Aubervilliers et on est face à des lycéens qu'on veut essayer d'initier, de sensibiliser à des pratiques culturelles différentes, à des productions culturelles très très différentes. Alors, je vous laisse peut-être présenter un peu le projet du lycée
oui.
du film.
Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans cette histoire, c'est que les professeurs ont proposé aux élèves de dire on vous propose d'avoir accès à un bagage culturel que peut-être vous n'avez pas eu la chance d'avoir par vos parents, par là où vous êtes né, mais qui vous est autant destiné qu'à tous les autres Français, même si pour beaucoup d'entre eux, ils n'étaient pas forcément nés en France. Et l'idée, c'est de leur dire tout ça est là pour vous. Mais ce qui était intéressant, c'est que c'était pas une option du bac. C'est qu'au départ, les jeunes ont dit, mais ça va nous servir à quoi de faire tout ça?
Est-ce qu'on aura des notes?
Ça va vous servir à rien. Si vous voulez avoir des bonnes notes, ne venez pas. C'est une porte ouverte sur autre chose. Alors l'idée, c'est qu'il y avait à la fois une partie, on va dire, de rencontres avec des médecins impliqués, militants, des avocats, mais aussi la première fois à la Comédie Française, la première fois dans une dizaine de théâtres. La première fois dans un tribunal à Bobigny, enfin ils allaient visiter un certain nombre de lieux pour avoir le droit de pour découvrir que tout ça leur était autant
donc
accessible
la culture
aux
a un
autres,
sens très large
avec un ticket de métro et c'est ça que je trouvais assez excitant parce que je me suis dit moi je n'ai pas du tout de ce type de milieu mais si à 17 ans on m'avait proposé un programme aussi exigeant parce que contrairement à enfin moi ce que je trouve ce qui est intéressant c'est de Ce qui fait naître le désir culturel, c'est le fait de pouvoir dire ça c'est pour vous, même si on commence par un livre qui est un best-seller dont on pense qu'il n'a pas de qualité littéraire. Si déjà on lit ça, je pense qu'après on lit autre chose et puis on peut en venir à lire des choses qui soient plus estimables pour l'ensemble. Et là c'était ça, c'était de leur dire vous pouvez, ça c'est tout ça c'est pour vous. Et l'adproviseur disait c'est pas là, on croit que les jeunes de banlieue voudraient la Star Academy ou je sais pas quoi. Non, en fait, on leur propose des choses aussi exigeantes que les autres et ils viennent.
Alors, on va passer un premier extrait du film que je vais vous inviter à commenter. C'est un cinéaste qui parle.
Rêver à un autre monde, à quelque chose dont on n'est pas sûr que ça arrive, de se donner les moyens de faire quelque chose qui va dans ce sens. Quoi. Et la culture, je crois que c'est ça. Hein.
Juste avant qu'on se quitte, vous posez une question. Est-ce que vous savez d'où vient, parce que je trouve ça formidable que vous appeliez les Voraces, et dans l'histoire du mouvement ouvrier, est-ce que vous savez?
C'est ça qu'on voulait passer, mais mea culpa. Ce que disait Bruno Muel dans l'extrait, c'était qu'il reparlait de mai 68, il mettait en avant l'utopie qui était passée, et il disait l'utopie qu'il y avait dans mai 68 et ce qu'il y avait pour changer la société, ça passait par la bataille culturelle. Et j'ai eu l'impression que c'était un peu l'enjeu du film aussi.
Oui, il disait que l'utopie, c'était le droit de rêver, le droit de rêver à un monde meilleur, et que la culture, c'était ça. C'était la possibilité, on va dire, que tout le monde ait accès à cette possibilité de rêve. Oui, pour moi, ça rentrait en pleine résonance. Là, en l'occurrence, le sujet qu'il traitait était sur mai 68, et beaucoup des jeunes se demandaient, est-ce que vous pensez que mai 68 pourra arriver aujourd'hui? Est-ce que les conditions sont réunies? Et des jeunes, ils disaient finalement, ben oui, et du coup, les jeunes s'interrogeaient sur qu'est-ce qu'ils auraient fait, eux, à l'époque. Beaucoup se disaient, ben, moi, je me serais investi, parce que déjà, c'était des jeunes qui avaient envie de s'investir. Si on leur donnait quelque chose dans lequel s'investir, ben, ils fonçaient.
Puis il y a cette idée-là aussi dans le projet que leur faire accéder à ça, c'est une manière de changer leur vision sur leur place dans la société et peut-être de changer la société plus largement.
Oui, en tout cas, qu'ils en font partie au même titre que les autres, qu'ils ont accès aux mêmes choses que les autres et qu'ils ne se sentent pas exclus. Il y avait cette idée d'un double regard, c'est-à-dire vous êtes regardé par les Parisiens des classes favorisés et vous allez être dans un ghetto, mais en fait ce ghetto aussi vous le construisez vous-même dans la façon dont vous vous imaginez enfermé là-dedans. Donc l'idée était d'avoir une sorte de double démarche qui les libère. C'était vraiment le travail qu'a fait cette professeure Catherine Robert et et les autres professeurs et la proviseure, c'était vraiment de les libérer.
Mais je me suis interrogé moi sur le titre que vous avez choisi, Les Voraces, parce que j'y ai vu un peu, comment dire, une idée quelque part que l'accès à la culture, finalement, c'est un peu du quantitatif finalement. Il faut beaucoup manger de culture pour y accéder, quoi. Pourquoi ce titre ?
Alors c'est drôle parce qu'au départ, c'était pas mon titre, c'était le titre du club. Au départ, ils avaient appelé ça le club Miam Miam et ils disaient la culture c'est comme le Nutella, plus on en a, plus on en veut, je crois. Enfin, c'était démarré d'un truc comme ça. Et puis les Voraces, donc ils faisaient référence à la cour des Voraces, et donc l'idée des ouvriers de la soie et qu'ils avaient droit aux mêmes choses que les autres. Moi, ce que j'aimais beaucoup dans ce titre-là, c'est qu'il y avait un côté pas très poli. C'est-à-dire qu'on attaque, on a faim, on a envie d'y aller, on mange et on ne fait pas tellement attention à la façon dont on mange tant qu'on peut manger. Et effectivement, c'est plutôt cet accès au fond qu'à la forme. Et c'est ça qui me plaisait parce qu'on n'était plus dans un cadre.
On va écouter un deuxième extrait, c'est là la proviseure qui parle un petit peu à la fois du projet et du résultat. Donc c'est la proviseure du lycée.
Mais ont le sentiment que cette société miroir leur renvoie, c'est pas pour vous. Et moi, je crois que cet enfermement-là, invisible, au bas de ma tour, je sais que j'ai un ticket de métro, que je peux aller à Paris et que je peux aller voir telle et telle chose, ce pas-là, on a tenté de les aider à le franchir.
Une des questions que je peux vous poser, le documentaire il donne un peu la réponse, mais les auditeurs ne l'ont pas vu, c'est est-ce que ça marche ?
Ben justement, c'est ça qui est intéressant. Au départ, ils sont très nombreux, ils sont très enthousiastes. En fait, le film suit une année scolaire. C'est le moment où les professeurs, début septembre, leur disent « Est-ce que vous voulez venir ?» Et au début, ils sont très nombreux, ils sont tous là, ils disent « C'est génial !» Puis 2 mois après, on est aux vacances de la Toussaint, ils sont plus 60, mais ils sont 5.
Une chute d'effectifs énorme.
Alors c'est expliqué parce qu'ils disent qu'ils ont du boulot, ils ont plein de choses à faire, et puis peut-être qu'il y a des cycles, parce que l'idée c'est qu'il y avait des cycles thématiques sur l'art, alors il y a des choses qui les intéressaient plus ou moins. Mais là, ce qui était intéressant, ce qui s'est passé, c'est que les professeurs leur ont dit, ben on arrête, c'est pas grave. Nous, tous ces gens qu'on fait venir de Paris, tous ces gens intéressants, on les rencontre quand on veut. Donc si vous voulez pas venir, vous voulez pas. Alors là, ils se sont fait passer le mot, c'était drôle, parce que la fois d'après, ils avaient fait venir des gens qui seraient jamais venus, mais juste pour montrer qu'il y avait du monde, il y avait des filles qui limite se faisaient les ongles, enfin... Mais très vite, le fond a repris. C'est-à-dire qu'ils sont tous revenus. Ils n'étaient pas aussi nombreux qu'au début, mais ils ont tenu jusqu'à la fin. Parce que, pour moi, les professeurs, à nouveau, ils les ont pris par la main au début et après, ils les ont responsabilisés en disant c'est pour vous. D'ailleurs, le théâtre, on parlait de théâtre tout à l'heure, ils devaient payer 5 euros. Mmh. Le lycée payait la différence, mais c'est eux qui devaient. Alors, ils faisaient du babysitting. La professeure a dit je veux pas savoir comment vous voulez. Il y en avait qui venaient avec des piles de centimes gigantesques. En disant voilà ma place, mais l'idée c'est que il faisait une partie de l'effort et le reste de l'effort était fait par le lycée. Et du coup, moi je trouve que ça marchait plutôt bien. Alors on voit dans le film que l'accès à la culture résout pas tout. Il y a une grande scène assez violente sur la question de la place des femmes au tribunal de Bobigny qui a lieu dans le film où ils réagissent très fort à une histoire. Et là, tout d'un coup, on est un peu surpris parce qu'on se dit « Ah, c'est merveilleux, la culture, ça reste tout. » Non.
C'est intéressant parce qu'on voit que la culture, ça construit des identités, mais ça ne déconstruit pas non plus tout ce qui est présent.
Voilà, exactement. Ça participe, mais ça enrichit. Parce que même ce jeune homme qui, en l'occurrence, dans cette scène-là, est très violent, très virulent, et tient des propos qui, moi-même, sur le moment, j'étais en train de filmer,
oui, sur la place des
femmes, attendais pas du tout. À la fin, on le voit revenir, et puis il va voir cet avocat, Philippe Lemaire, qui s'était battu avec Basinter pour l'abolition de la peine de mort, et il lui dit, mais est-ce que vous voulez pas abandonner quand c'est trop difficile? Le type dit, j'abandonne jamais. Et du coup, il revient, et puis le gars, il rate son bac, mais il est super content pour les autres, et il dit, je vais continuer à venir. Donc, en fait, il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Donc, pour moi, l'expérience, je suis un tempérament plutôt optimiste de nature, je dois avouer,
on
mais l'expérience est plutôt positive.
Alors, on va écouter peut-être un troisième extrait qui montre aussi un peu, c'est les témoignages des élèves, hein, qui vient à la fin, et on voit un peu justement dans quelle mesure ça peut marcher ou pas. C'est assez intéressant là aussi.
Son choix, aller au théâtre, regarder un tableau, en un mot, réussir. Tout vous est possible. Une seule formule magique. Un vorace est libre. Il se soucie de ses semblables qu'il considère comme ses égaux. Et je vous le souhaite. Un vorace est un homme heureux.
Après avoir assisté à un concert, à 10 spectacles, visité 3 musées et rencontré 27 intervenants, les voraces ont déserté la salle 318. Le dernier trimestre n'est qu'un long tunnel de révision jusqu'au baccalauréat.
Quand vous avez des sujets voraces comme les boulards ou ce genre de choses, ça ne sert pas vraiment, ça ne sert pas du tout à l'électrotechnique. Et ça prend aussi pas mal de temps, les voraces quand même, ça prenait du temps. Et puis vu que j'étais en difficulté à suivre encore bien ce rythme d'électrotechnique, j'ai décidé de moi y aller en tout cas.
La Emma de la fin d'année est très 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 fatiguée. Et intellectuellement, elle est beaucoup 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 plus ouverte et tolérante. Ce que je ne m'autorisais pas, je me l'autorise maintenant. C'est-à-dire que je prends l'initiative de, mais à chaque fois que j'oublie, de prendre dans les journaux, quoi que ce soit, regarder les critiques culturelles, c'est-à-dire les expositions qu'ils peuvent avoir, les pièces de théâtre que je peux aller voir et que j'ai pas la possibilité parce que je suis en cours, mais bon.
Je vous laissais commenter, mais pour cette dernière jeune fille, c'est intéressant. Elle est vraiment très dans la pratique, en tout cas dans son discours, c'est ce qu'elle dit, dans la pratique culturelle qu'elle faisait pas avant, quoi.
Ouais, vraiment, elle a changé, cette Emma. Elle s'est impliquée énormément. Souvent, on rencontre des jeunes comme ça qui n'attendent qu'une occasion pour cette voracité, cette soif qui s'exprime. Et tout d'un coup, c'était vraiment son cas avec elle. Ouais.
Et est-ce que ce genre de documentaire vous fait réagir,
Moi, ça me donne surtout envie de le regarder.
Déjà. Donc, on pourra raconter d'ailleurs où est-ce qu'on peut le voir.
Oui, hein. Ça sera avec plaisir.
Van Glabeck Film,
tout à fait. On mettra peut-être le site.
Le lien sur le site de la Fondation Coppère.
Tout à fait.
Oui, et ça me fait penser effectivement que. À cette vision, ce que j'ai appelé tout à l'heure le choc électif ou esthétique, à cette croyance, à cette illusion selon laquelle il suffisait de placer des jeunes ou des ouvriers ou etc. devant une œuvre pour que quelque chose se passe, a succédé quand même une époque, et je pense que ce film en est vraiment le témoignage aujourd'hui, où on a compris qu'il fallait aussi de la médiation culturelle, de l'animation, de l'accompagnement, qu'il suffisait pas encore une fois de placer les gens de jeter les gens dans l'eau du bain pour qu'ils se mettent à nager. Il faut aussi les accompagner, avoir tout un discours de préparation, en fait. Et je pense que c'est quand même un petit peu ça, j'ai l'impression, que votre film montre aussi.
Oui, je pense que vraiment le travail de ces professeurs, qui était assez exceptionnel, effectivement, était de faire ce lien. Voilà. Aller contre ce qui s'était construit pour leur dire... Ouais. Et c'est vrai qu'il y a des séquences où ils sont louvres et ils voient des choses totalement inattendues. Mais c'est vrai qu'eux-mêmes, si on leur avait dit, tiens, voilà le ticket de métro, voilà la place, ils ne l'auraient pas fait. Je pense, mais là, tout d'un coup, ça devient possible et du coup, ils peuvent y retourner.
Voilà. Et l'éducation n'est pas la connaissance n'est pas l'ennemi de la culture, comme le croyait Malraux, mais au contraire, son allié, son auxiliaire.
Oui. Pour moi, il y a aussi une question de tolérance aussi. C'est que j'ai l'impression que ce que dit cette Emma, c'est que finalement, ils sont, à la fin, en ayant entendu d'autres points de vue qu'eux, parfois exprimés par des gens importants ou morts depuis très longtemps, leur permettait d'appréhender le monde de façon un peu plus
ouverte. Oui, elle parle d'ouverture et de tolérance. Mmh. Ouais. Francis Perny, tu voulais réagir, ce sera sans doute le mot de la fin.
Ah là là,
pression.
Non, je trouve que ce qui m'intéresse, moi, c'est les deux réactions apparemment contradictoires entre ce jeune et cette jeune fille. Mais je trouve que ça traduit, finalement, ça met en question ce que doit être le contenu de l'enseignement. Est-ce qu'on forme pour avoir un métier ? Ou est-ce qu'on forme pour avoir le maximum de contenu, de connaissances, de savoir, que ce soit par la réflexion intellectuelle ou par le sensible, de façon à ce qu'on ait des citoyens qui s'épanouissent et qui puissent appréhender et construire les questions professionnelles à partir d'un patrimoine personnel construit plus important. Ça me fait penser au rythme scolaire. Le présupposé de la réorganisation des rythmes scolaires, c'est de dire qu'il faut alléger les contenus d'enseignement. Je pense qu'il faut le contraire si on veut avoir une culture populaire, parce que si on allège les contenus d'enseignants, alors on laisse les discriminations entre les catégories sociales se développer. C'est-à-dire celui qui aura le minimum à l'école, oui, il pourra avoir des cours de musique, des cours de ceci ou de cela parce que ses parents le permettront, et pas les autres. Donc l'école doit être le lieu du maximum de savoir, du maximum de contenu.
Je ne sais pas si vous voulez réagir, on a le temps d'un dernier mot là-dessus, sur le cadre de l'école et le fait que... Parce que c'était le cadre de l'école, mais c'était quand même un peu en dehors des enseignements.
Oui, ça, c'était quelque chose effectivement intéressant à ajouter. C'est que c'est une initiative de professeurs qui ont réalisé que l'école ne suffisait pas, que les jeunes étaient en demande de plus. Et du coup, avec cette proviseur, ils l'ont fait. Ce n'est pas un cadre, ce n'est pas une loi. Et ça m'a beaucoup plu, que des gens s'emparent d'une case et disent « on va faire ça ici ». Et je trouve que c'est merveilleux quand ça peut se faire.
Mais on pourrait envisager une école qui inclut ça dans son programme. C'est ça que moi je plaide.
Peut-être, sans doute.
C'est une autre question qu'on traitera peut-être à une prochaine émission. On va s'arrêter là-dessus, en tout cas pour ce soir. Merci à nos intervenants.
Merci à Copernic.
Merci à vous.
Et puis on retrouvera l'émission donc sur le site de Mode d'emploi et sur le site de la Fondation Copernic, fondation-copernic.org. Et on se quitte avec 1984, le groupe donc qu'il faut écouter maintenant. C'est Influenza.